France Inter.
Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Et nous serons à Gaza avec ses habitants qui retrouvent un fils, un frère, un père dans les fosses communes découvertes au sein de deux hôpitaux. Au moins 340 corps selon les secouristes locaux. L'ONU, les Européens, les Américains demandent des comptes à Israël. En France, 2 millions de bouteilles de Perrier partent à la poubelle. L'un des captages dans le Gard est contaminé. Nouveau revers pour le groupe Nestlé, précision à suivre. Au sommaire aussi, le procès d'une secte à Paris et le récit édifiant du fils d'un adepte, et Venise qui devient aujourd'hui payante pour les touristes, une partie d'entre eux en tout cas.
Il est l'un des visages les plus connus parmi les otages israéliens du Hamas.
Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, apparaît dans une vidéo diffusée hier soir par l'organisation islamiste. Dans la foulée, des dizaines de manifestants se sont réunis devant la résidence du Premier ministre Netanyahou au cri de « Ramenez-les à la maison ». À Gaza, pendant ce temps, beaucoup de questions toujours autour de ces fosses communes découvertes dans deux hôpitaux de l'enclave. Après l'Union européenne et l'ONU, la Maison-Blanche demande à son tour à Israël une enquête fouillée et transparente. Notre correspondant Thibault Lefebvre a pu recueillir des témoignages directs grâce à l'aide sur place de Youssef Kilani.
Une femme est assise au sol. Devant elle, deux corps dans des sacs mortuaires blancs recouverts de fleurs. Elle porte un masque chirurgical et parle au téléphone à son père.
On a retrouvé la dépouille de mon frère Mounir. Que Dieu ait pitié de son âme. Viens papa et apporte du parfum.
La maman, éreintée, les yeux cernés, interrompt la conversation.
Je l'ai reconnu. C'est le cœur d'une mère qui parle.
La dépouille de Mounir a été retrouvée au milieu de plus de 300 cadavres autour de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Depuis le retrait des troupes israéliennes de la ville le 7 avril, des dizaines de familles cherchent les corps de leurs proches. Le docteur Ahmed Moghrabi était dans l'établissement jusqu'au 15 février.
Pendant deux ou trois semaines, l'hôpital était en état de siège et les gens ont enterré les corps à l'intérieur de l'hôpital.
Les familles de victimes accusent aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. Dans un communiqué, l'état-major reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. L'état hébreu dément.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. Tandis qu'aux États-Unis, le mouvement des étudiants pro-palestiniens fait tache d'huile, parti de l'université new-yorkaise de Columbia. Il concerne désormais de nombreux campus, de Harvard à la Californie en passant par le Texas. En France, un rassemblement pro-palestinien hier soir à Sciences Po Paris. Une cinquantaine d'étudiants se sont réunis dans le calme selon la direction au sein du campus Saint-Thomas. Voilà qui signe un changement majeur dans la politique américaine à l'égard de l'Ukraine. Le nouveau plan d'aide à Kiev comprend l'envoi de missiles à longue portée, capables de transpercer les lignes ennemies à plus de 300 km. Washington vient de le confirmer. Jusque-là, Joe Biden était très réticent à livrer ce type d'armes.
En France, ce nouveau coup dur pour le groupe Nestlé.
Et sa branche eau minérale, déjà dans la tourmente. La marque Perrier a dû cesser l'exploitation de l'un de ses captages dans le Gard à la demande de la préfecture. Après la découverte de bactéries, Marie Dupin, 2 millions de bouteilles sont concernées.
Oui, 2 millions de bouteilles détruites et un puits désormais fermé dans l'usine Perrier du Gard. Cette annonce d'une contamination par des bactéries d'origine fécale intervient 3 semaines seulement après nos révélations. Sur une note adressée au gouvernement évoquant un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des eaux minérales Nestlé, en cause une contamination des ressources qui avait conduit l'entreprise à mettre en place des traitements interdits. La multinationale affirmait avoir retiré ces traitements mais pouvoir malgré tout garantir la qualité de ces eaux. Les puits contaminés ayant été fermés ou détournés pour fabriquer des boissons gazeuses. Or, l'annonce de la destruction de 2 millions de bouteilles Perrier semble confirmer au contraire que des sources contaminées continuent d'être exploitées par Nestlé pour produire de l'eau minérale naturelle, censée pourtant être protégée de toute forme de pollution. Le ministère de la Santé n'a pas encore répondu à nos questions.
Et selon Nestlé, les bactéries retrouvées ces derniers jours sont liées aux fortes pluies qui sont tombées le mois dernier sur ce département du Gard. Situation un peu paradoxale aujourd'hui dans les aéroports français. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a bien levé son préavis de grève, mais trop tardivement pour reprogrammer les vols déjà annulé. Le trafic va donc rester très perturbé toute la journée. Orly le plus touché, 3/4 de suppression, 65% à Marseille, une grosse moitié à Roissy. On attend ce midi les chiffres du chômage du premier trimestre selon France Travail. Première publication depuis la transformation de l'ex-Pôle emploi. L'occasion avec vous, Maxime Debs, d'un premier bilan de cette réforme, notamment sur l'accompagnement des allocataires du RSA qui sont désormais dans le giron de l'organisme.
Sur l'accompagnement des allocataires du RSA moyennant 15 heures d'activité qui a beaucoup fait parler, le dispositif est expérimenté dans de plus en plus de départements maintenant et les premiers résultats probants à écouter Paul Bazin, directeur général délégué de France Travail.
Ils étaient 18 en 2023, ils sont désormais 47 et on voit d'ores et déjà dans les 18 premiers des résultats. Pour les personnes qui ont eu 5 mois d'accompagnement, on avait 40% qui avaient trouvé un emploi à l'issue de ces 5 mois d'accompagnement et en emploi durable, donc CDD de plus de 6 mois ou CDI, c'était déjà 17%. Pour des personnes parfois pas très bien accompagnées pendant des années, eh bien très vite, cet accompagnement intensif, il montre de premiers effets en emploi.
Constat partagé par les syndicats, toutefois un peu plus prudent.
Ça donne des résultats intéressants. Maintenant, quid de la généralisation qui se fera en 2025 ?
David Valaperta, la CFDT, dubitatif pour la suite à plus d'un titre, à l'heure où le gouvernement, par ailleurs, ne s'interdit pas de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs, ce qui risque de changer encore la lettre de mission des conseillers France Travail.
Pour nous, c'est clairement pas cohérent et pas compatible avec justement l'annonce qui avait été faite et l'objectif justement d'avoir un meilleur accompagnement. C'est quelque chose donc qui nous interroge en fait sur les conditions de mise en œuvre de France Travail demain.
Le tout dans un contexte d'économie que cherche à faire l'État, ça fait quand même beaucoup d'inconnus, estiment les syndicats.
L'Élysée s'en défend, mais pour les adversaires du président, il s'agit bien là d'une entrée en campagne à 6 semaines des élections européennes. Emmanuel Macron prononce ce matin un nouveau discours sur l'Europe à la Sorbonne, comme en septembre 2017. Le chef de l'État devrait dérouler une série de mesures nécessaires, selon lui, pour passer à l'Europe puissance, et cela au moment où son camp est à la peine dans les sondages.
France Inter 6h07, il raconte l'engrenage infernal de l'embrigadement.
Anciens adeptes et familles de victimes se succède à la barre du tribunal correctionnel de Paris au procès de la secte de la Grande Mutation. Son gourou est mort, mais 6 cadres du mouvement sont jugés pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Car Charlotte Piret, l'idéologie de cette secte était cachée sous un vernis pseudo-scientifique.
Pendant 7 ans, Dominique a été adepte de la Grande Mutation, fasciné par son gourou, ancien chercheur au CNRS, qui expliquait son handicap dû à un accident de moto par le fait qu'il avait retourné le canal cosmique. Dans ce mouvement où le monde était divisé en deux, et toute décision prise en fonction d'un pendule. Dominique a même tenté d'embarquer son fils Robin, dans un premier temps mis en confiance par le statut des cadres de la Grande Mutation.
En tout cas, ils se présentaient comme des scientifiques, des chercheurs. Et il y a une période de séduction. Ces gens-là nous disent qu'on a quelque chose de spécial, qu'on est à part, qu'on est des êtres de lumière, que sais-je encore. On est mis dans un premier temps en valeur. Et progressivement, on nous enlève tout esprit critique, en fait.
Et cette mécanique, Victor l'a vécue d'encore plus près en assistant à plusieurs réunions collectives alors qu'il était adolescent.
Quand il y a des personnes qui posaient des questions, on leur faisait comprendre par des rires un peu gentils, faussement gentils, qu'ils comprendront. Mais plus tard, c'est la pire chose, en fait, pour eux. C'est quelqu'un qui fait preuve d'esprit critique, donc ils tournent ça en dérision, de manière à ce qu'il y ait une telle pression dans le groupe que personne n'a envie de se distancier des autres, d'être à la ramasse et de perdre le message, en fait.
Dans la salle, les prévenus aux longs cheveux en guise d'antenne cosmique, selon eux, ces cadres du mouvement sont restés impassibles lors des témoignages de victimes. Les premiers doivent s'expliquer à la barre cet après-midi.
Un nouveau couvre-feu municipal pour les mineurs après Pointe-à-Pitre, Béziers et Nice. C'est la commune des Pennes-Mirabeau près de Marseille qui va l'imposer dès ce soir aux enfants de moins de 13 ans.
En Italie, Venise devient aujourd'hui la première ville touristique au monde à imposer un ticket d'entrée à ses visiteurs.
Ouais, un peu comme dans un parc d'attractions, mais là à l'échelle de toute une ville, la cité des Doges désormais payante, 5 euros pour les visiteurs à la journée pour tenter, Bruno Duvic, d'endiguer le surtourisme.
La taxe sera due jusqu'à 16 heures. Sont exemptés les 260 000 résidents de toute la région Vénétie. C'est trop pour Matteo Secchi de l'association d'habitants venetia.com.
Ce sont eux qui font augmenter de manière disproportionnée le nombre de personnes certains jours. On se fiche du monde.
Vous êtes exempté si vous dormez à Venise. L'hôtel peut vous fournir la preuve, un QR code. Bruno tient un établissement dans la lagune.
C'est une perte de temps. Ça ne règle rien. Il faudrait un nombre limite de personnes en plus de ces 5 euros. C'est juste pour faire rentrer de l'argent.
La mairie jure que le coût de la mesure est supérieur aux 700 000 euros attendus et non à un numerus clausus, on ne ferme pas la ville. C'est une première étape, dit Michele Zuin, adjoint aux finances.
Nous voulons savoir combien de personnes exactement sont dans la ville. Cela servira pour la deuxième étape en 2025. Il y aura un seuil de visiteurs. En dessous, vous payez moins 2 ou 3 euros. Au-dessus, vous payez 10 euros.
Les contrôles seront légers. L'amende commence à 60 euros.
Et si vous êtes concerné, toutes les informations pour acheter le QR code sur cda.ve.it. Voilà pour votre prochain week-end en amoureux, Mathilde.
Je vous remercie Alexis Morel et bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Dans votre esprit sport olympique, le surfeur marocain Ramzi Boukiam qui a démocratisé cette discipline dans son pays.
Oui, c'est une véritable icône du surf en Afrique et surtout chez lui au Maroc. C'est vrai qu'avant lui, les Marocains n'avaient jamais vu de surfeur dans leur pays de ce niveau. Alors Ramzi Boukiam, il sera de l'aventure parisienne cet été. Ce sera à 30 ans sa deuxième Olympiade en surf donc, vous le disiez, c'est un sport qui permet, selon lui, d'unir tout le monde, quelles que soient les classes sociales.
Comment en est-il arrivé là ?
Alors, il s'est mis à l'eau très jeune. Il est né en septembre 1993 aux Pays-Bas. Et oui, sa mère était néerlandaise. Son père, marocain, il a grandi à Agadir. Il a passé toute son enfance au bord de l'océan. Il est tombé amoureux de ce sport. Il l'a raconté à Média TV Afrique.
Ça a commencé sur les plages d'Agadir, quand j'étais tout petit, à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi. Mon père allait tout le temps à la plage pour pêcher. Il nous emmenait, moi et mon frère, du coup, tout le temps avec lui. Mon frère surfait un petit peu avant moi. Moi, je faisais un peu de bodyboard. Je me mettais déjà debout sur le bodyboard. Je m'amusais toute la journée dans l'eau. Et mon frère, un jour, m'a dit « Essaye le surf ». J'ai essayé. J'ai accroché et c'est parti crescendo.
Ramzi Boukiam qui dit aussi dans The New Arab « Quand j'ai eu ma première planche, j'ai carrément dormi toute la nuit avec et même toutes mes premières nuits, j'étais complètement surexcité. »
Et aujourd'hui, il est professionnel.
Oui, il a franchi le cap il y a plus de 10 ans et le 1er décembre 2022, il a même rejoint le circuit élite, événement qu'il avait célébré en surfant avec le drapeau marocain sur le dos et nul doute, Mathilde, qu'il va faire pareil s'il parvient à décrocher cet été une médaille olympique à Tahiti et sur son spot mythique de Teahupo'o.
Cédric Guillou pour l'Esprit Sport.